San Pedro et partout en Côte d'Ivoire et vous suivez la dernière édition de la journée dont voici l'essentiel. Raffermir et harmoniser les politiques et les initiatives d'intérêt commun dans divers domaines au cœur du premier sommet entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui a ouvert ses portes en présence du président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. La réinscription du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale fait débat devant le Parlement ivoirien. Le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubiert, a indiqué que Laurent Gbagbo ne peut être réinscrit sur la liste électorale. Une sortie qui a fait réagir le porte-parole du PPACI, Kone Katina Justin, les détails dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, l'Union des journalistes de la presse libre africaine dénonce l'interdiction gouvernementale au Cameroun de toute publication concernant la santé du président, une mesure qu'elle juge attentatoire à la liberté d'informer. Et puis en sport football, sous le coup de 19h, la Côte d'Ivoire affrontera à San Pedro la Sierra Leone dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18h. La première conférence au sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana a eu lieu ce vendredi en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana ont déblayé le terrain pour les prochains sommets. Junior Cardin était au palais de la présidence, son compte rendu.
Le sommet de ce vendredi 11 octobre était dédié à l'examen de la mise en œuvre des diligences issues de la réunion de lancement de l'accord de partenariat stratégique signé le 17 octobre 2017 au Ghana. Le président ivoirien Alassane Ouattara précise les ambitions de cet accord.
De raffermir et d'harmoniser nos politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques.
Spécifiquement sur le volet économique et monétaire, la monnaie ECO s'est invitée à cette première conférence. Alassane Ouattara.
L'objectif que nous nous sommes fixés entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est d'accélérer la convergence au plan monétaire et financier. Les circonstances mondiales ont retardé ce processus, mais nous travaillons à cela pour que, au plus tard en 2026, nous puissions avoir une convergence qui nous permettrait, en ce moment-là, d'envisager de mettre en place l'écho.
En symbiose avec son homologue ivoirien sur toutes ces questions, le président ghanéen s'est en plus appesanti sur la qualité de la coopération entre les deux pays. Nana Akufo-Addo.
Je suis convaincu que les relations profondes et solides qui ont été battues dans l'ère de président Alassane Ouattara et moi-même pour nos deux pays vont continuer à élargir et développer pour l'avenir prospère de nos deux peuples.
Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous très prochainement en vue de la signature de 3 protocoles d'accord sur des questions aéroportuaires.
Révision de la liste électorale. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo ne peut être réinscrit sur la liste électorale parce que ne faisant pas partie des personnes concernées par la loi d'amnistie de 2018 prise par le président de la République. Ces propos sont du président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Kubiert Takoulibaly, qui s'adressait aux députés mercredi dernier. Nous l'écoutons.
La question relative au président Gbagbo. Il se trouve qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, nous écrivons à la justice. Donnez-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Le président Gbagbo se trouvait sur cette liste. La commission électorale a tiré les conséquences. Le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Il se trouve que vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficient d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que les militaires et les membres des groupes armés. Pendant que cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen.
À l'instant, Ibrahim Kubiat Koulibaly, président de la commission électorale indépendante. Restons toujours sur le même sujet, l'éligibilité de Laurent Gbagbo en 2025. Justin Kone Katinan, président du conseil stratégique du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a vivement réagi aux déclarations du président de la commission électorale indépendante, CEI, Ibrahim Kubiat Koulibaly, devant l'Assemblée nationale. Ce jeudi, lors de la 30e tribune du PPACI, Kone Katinan a estimé qu'il ne revient pas à la CEI de se prononcer sur l'amnistie ou sur l'éligibilité de Laurent Gbagbo. On l'écoute.
En effet, s'il est établi que son excellent le président Laurent Gbagbo et trois autres de ses collaborateurs, dont moi, avons été injustement condamnés dans la ridicule affaire dite du CAS de la BCAO, il est nullement mentionné et nulle part ailleurs, ni dans cette décision, ni dans aucune autre, que le président Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et politiques. La décision itérative défaut qui a été prise pour donner plein effet à la décision précitée n'a non plus énoncé de privation de droits civiques et politiques du président Laurent Gbagbo. Bénéficier d'une amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions ayant un lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction internationale ainsi que les militaires membres d'un groupe armé. Pour le PPACI, la lecture est simple. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de cette liste, elle est circonstancielle. Il faisait face à une justice internationale. Dès lors que cette circonstance n'existe plus, il bénéficie de plein droit de l'ordonnance d'amnistie.
À l'instant, Kone Katinan Justin, président du conseil stratégique et politique du PPACI. Un mot de santé dans cette édition. Le lancement ce jeudi 10 octobre de la campagne Octobre Rose 2024 en Côte d'Ivoire. Cette activité qui s'est tenue au Palais de la Culture de Trècheville est une initiative de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en collaboration avec le programme national de lutte contre le cancer et les laboratoires Roche. La direction du cabinet adjointe, la directrice pardon du cabinet adjointe du ministre de la Santé en charge de la CMU, Dr Koulibaly Soltier, sur les acquis dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire.
Grâce au gouvernement et à la force des plaidoyers, le traitement de certaines formes de cancer du sein est gratuit. Par ailleurs, au niveau du dépistage et de la détection précoce des cancers, des centres de sénologie sont ouverts au CHU de Trècheville et de Boaké, à l'Institut national de santé publique d'Adjamé, à l'hôpital général de Yopougon-Atié et au CHR de San Pedro. Dans ces centres, la mammographie est disponible à moindre coût, soit 5 000 francs contre 30 000 francs minimum au privé toute l'année à Abidjan. Nous avons déjà mis en place des initiatives visant à améliorer l'accès aux soins et à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage précoce. Cependant, la sensibilisation reste notre grande arme. Il est donc essentiel que chaque femme prenne conscience de l'importance des examens réguliers et des consultations médicales. Octobre Rose n'est pas seulement une campagne de sensibilisation. C'est un appel à l'action. C'est un mois pour renforcer les stratégies de réduction du taux de mortalité et de morbidité du cancer du sein et de consolider l'espoir. Ensemble, nous pouvons changer les mentalités et inciter chaque femme à prendre soin de sa santé.
À l'instant, la directrice de cabinet adjointe du ministre de la Santé en charge de la CMU, Dr Koulibaly Soltier. Culture, que faire face au risque de disparition de nos langues maternelles en Afrique, comme c'est le cas actuellement en Côte d'Ivoire? Le professeur Kwadio Nguessan-Jérémy, linguiste et membre de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, tire la sonnette d'alarme et appelle à l'implication de tous pour la sauvegarde des langues en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. C'était à la faveur du colloque international sur les politiques linguistiques tenu le 8 et 9 octobre dernier à Yamoussoukro. Professeur Kwadio Nguessan-Jérémy est au micro d'Emile Yao.
Une langue qui n'est pas utilisée disparaît. Il y en a déjà combien? 3 ou 4, 5, 6 qui sont... le béret a disparu, le liti de Libye a disparu. Il y a plein de langues qui disparaissent. Et les otilés, on essaie de la réveiller parce qu'elle était pratiquement disparue. Donc les langues, si elles ne sont pas utilisées, si les enfants n'utilisent pas, les langues disparaissent. Il y a des langues comme ça qui sont menacées. Bon, bien sûr, pour l'instant, le djoula, le bété et le baoulé ne sont pas menacés en tant que tels, mais il y a d'autres petites langues qui sont menacées s'il n'y a pas de locuteur. Donc c'est pour tout ça que nous proposons des plans de recherche pour justement, même si elles disparaissent, qu'elles puissent laisser des traces. Qu'on dise qu'ici se parlait telle et telle langue et qui était notre richesse.
Mais que faire justement pour que ces langues ne disparaissent pas?
Ben, il faut créer des instituts comme on l'a. Il faut encourager les jeunes à réfléchir et que tous les écrivains, les journalistes, que tout le monde réfléchisse à l'utilisation de ces langues pour les rendre vivantes et les enrichir, parce qu'une langue qui ne s'enrichit pas meurt. Donc tout, chacun a un rôle à jouer. Il y a les linguistes, mais il y a tous les corps de métier peuvent aider à la valorisation de ces langues-là. Et en ce moment-là, elles ne mourront pas. Les chanteurs, les artistes, tout le monde s'y met et ces langues-là vivront.
À l'instant, professeur Kwadio Nguessan-Jérémy, linguiste et membre de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. De Yamoussoukro, prenons la direction de San Pedro, où le groupe scolaire Cité 1 a inauguré sa bibliothèque le vendredi 4 octobre 2024 dernier. Cette bibliothèque construite et équipée par la société Carmeuse vise à offrir aux élèves les outils précieux pour un bon apprentissage. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
Une bibliothèque dans une école primaire, c'est permettre aux enfants de voyager à travers la lecture pour une bonne formation, selon Sekou Balo, inspecteur de l'enseignement préscolaire et scolaire.
La fonction essentielle d'une bibliothèque est de favoriser la découverte de livres dont le lecteur ne soupçonnait pas l'existence. La construction de cet espace, une bibliothèque flambant neuve, qui va servir de lieu où l'exploration de cette mine de connaissances, les livres, ne peut laisser aucun éducateur indifférent. Ce temple de la conquête du savoir que vous nous offrez est notre bijou.
Pour Magirus Olivier, directeur général de Carmeuse, société donatrice de la bibliothèque, les enfants doivent pouvoir trouver une réponse aux questions introduites par le mot pourquoi à partir de la bibliothèque.
Le mot pourquoi est pour moi un mot très très important. C'est finalement le début de la recherche de la connaissance. Pourquoi ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Et c'est quelque chose qui est spontané chez les enfants et qu'on a tendance à perdre un petit peu quand on devient adulte et c'est dommage. Ben, ça leur donnera, je pense, une partie des réponses et pour s'inscrire en étant curieux et pour s'évader.
Cette mine de connaissances à travers les livres est le choix de l'élève Kone Fatim Zahra.
Sur place est important et elle, je vais choisir le livre parce que le livre a beaucoup m'aider dans mes études. Dans le téléphone portable, il y a quelquefois les informations qui sont fausses alors que dans le livre, rien n'est faux.
Les 828 élèves issus de ce groupe scolaire Cité 1 ont été invités à visiter régulièrement la bibliothèque. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, au Cameroun, la mesure d'interdiction du gouvernement de parler ou d'écrire sur la question de la santé du président Paul Biya suscite la réaction de l'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Pour Yao Noël, président de l'UJPLA, cette mesure est une grave atteinte à la liberté d'informer. Nous l'écoutons.
C'est une mesure troublante dans la mesure où il ne s'agit pas de la santé d'un kidam, mais de la santé du premier des Camerounais et donc du premier responsable dans la conduite des affaires publiques de ce pays. Et donc les citoyens camerounais ont le droit de savoir comment va et comment se porte celui qui mène la barque de ce pays. Et donc, pour l'UJPLA, cette mesure est complètement insolite, incompréhensible. C'est une atteinte grave à la liberté d'informer, liberté de presse.
Devant cet état de fait, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait, selon vous, le président de l'UJPLA?
Je pense que la mesure doit être modulée. S'il s'agit d'exiger des journalistes que nous sommes un traitement professionnel. Il n'y a aucun mal à cela. Mais dire qu'in globo, la question est purement et simplement interdite, cela est inadmissible et cela est complètement une curiosité en matière de droit de la presse.
À l'instant, Yao Noël, président de l'UJPLA, au micro de Constant Maïli. Et puis, le prix Nobel de la paix 2024 a été attribué ce vendredi à l'organisation japonaise antinucléaire Nihon Nidankyo, fondée en 1956. Ce mouvement regroupe des survivants des bombardements nucléaires menés sur Hiroshima et Nagasaki. Le lauréat du prix Nobel de la paix 2024 a été annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse à l'Institut Nobel norvégien à Oslo, la capitale de la Norvège. Les explications avec Mata Touré.
Ce prix tombe alors que l'année 2025 marquera les 80 ans des explosions d'Hiroshima et Nagasaki au cours de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Il tombe aussi alors que des menaces nucléaires sont également proférées dans les conflits actuels, notamment par Vladimir Poutine ou encore le Nord-Coréen Kim Jong-un. Le programme nucléaire iranien aussi est craint dans le contexte d'escalade militaire avec Israël. Nihon Nidankyo est une confédération de survivants des bombardements atomiques. Ses responsables sont tous des Hibakusha, terme désignant des victimes. L'organisation japonaise avait d'abord pour mission de pousser le gouvernement à allouer des droits aux victimes des bombardements. Ensuite, elle s'est davantage concentrée sur la lutte contre l'utilisation de l'arme nucléaire et des financements. Pour atteindre ses objectifs, il y a tout d'abord la prévention. L'organisation fournit des témoignages de victimes permettant ainsi de prendre conscience des séquelles réelles laissées par une telle catastrophe. Elle porte aussi la parole des Hibakusha à l'ONU et partage des déclarations contre les tests et exercices nucléaires. Elle travaille également à la promulgation d'une loi d'aide aux victimes, avec notamment les compensations de l'État pour ces personnes ainsi que pour leurs familles endeuillées. Cela passe par des campagnes de signature, des marches et des sittings. L'an dernier, le Nobel de la paix était allé à la militante iranienne Narges Mohammadi, emprisonnée dans son pays pour son combat contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Le prix de la paix est le seul Nobel remis à Oslo, ceux des autres disciplines l'étant à Stockholm.
Et puis, dernière articulation de cette édition avec la troisième journée des éliminatoires Cannes-Maroc 2025. La Côte d'Ivoire affronte sous le coup de 19h GMT dans la ville de San Pedro l'équipe de la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire première du groupe G entend, au dire de son sélectionneur MS Faye, consolider sa position de leader et de prendre une avance considérable sur la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Le match sera retransmis en direct sur les ondes de Radio de la Paix depuis le stade Laurent Pocou de San Pedro avec au commentaire César Yao. Voici qui met fin à cette édition, mais avant le rappel des titres. Raffermir et harmoniser les politiques et les initiatives d'intérêt commun aux divers domaines est au cœur du premier sommet entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui a ouvert ses portes en présence du président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Réinscription du nom de l'ex-président Laurent Gbagbo sur la liste électorale a fait débat devant le Parlement ivoirien. Le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubiet, a indiqué que Laurent Gbagbo ne peut être réinscrit sur la liste électorale. Une sortie qui a fait réagir le président du conseil stratégique et politique du PPACI, Kone Katina. Hors de nos frontières, l'Union des journalistes de la presse libre africaine dénonce l'interdiction gouvernementale au Cameroun de toute publication concernant la santé du président Paul Biya, une mesure qu'elle juge attentatoire à la liberté d'informer. Vous avez entendu son président dans ce 18h. Merci de nous avoir suivis. L'information sera de retour demain à 7h. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Sonia Inzian qui nous propose le magazine humanitaire.